Vous écoutez On lit pour vous.
Les humbles capacités humaines. Un texte de Denis Soulière paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. Une société mature devrait développer notre capacité à assurer notre sécurité, prospérité et indépendance. Un changement d'attitude éloquent et révélateur s'est immiscé depuis deux générations. On peut le résumer en disant que la population s'attend à des solutions absolues venant du gouvernement, comme si, pour toute chose, le remède ne peut venir de soi, que cette responsabilité incombe à une personne que l'on élit pour non pas nous représenter, mais pour régler nos problèmes et notre vie. De toute évidence, il y a ici une généralisation dans laquelle tous ne se retrouvent pas, mais qui est répertoriée dans diverses études démontrant une dégringolade de l'empathie, de la reconnaissance des besoins de l'autre et du sentiment d'appartenance à la communauté. La ville est malpropre. Les critiques sur l'administration de la ville fusent, mais où sont les remarques qui devraient s'adresser aux pollueurs? À ceux qui ne disposent pas adéquatement de leur détritus. Les élus municipaux portent peu la rhétorique des obligations individuelles alors que les frais municipaux progressent en raison de tâches majorées et d'une machine outrageusement compliquée par les niveaux de décision et de consultation instaurés pour ne pas brusquer la population. Ils craignent que de placer les électeurs devant un miroir, les obligeant à noter leurs travers, ne les porte à trouver un autre sauveur. C'est aussi attribuable aux acteurs politiques eux-mêmes qui se présentent sous une cape d'invulnérabilité en porteurs de bien des vérités, en êtres omnipotents capables de résoudre chaque problème, chaque défi. Ils ne s'arrêtent pas à affirmer mettre des efforts pour améliorer le devenir de chacun. Ils promettent ces changements. Il est assez étonnant de constater ce sentiment fort d'affirmation au moment où la société tend vers l'abandon de la pratique généraliste, ce qui favorise la spécialisation des fonctions. L'évolution des connaissances, des missions et des apprentissages porte justement à proposer la restriction de l'étendue des sujets qu'il est nécessaire de maîtriser pour être productif et utile socialement. Ceci a cependant la significative faiblesse de laisser croire, à tort, que toute tâche demande l'intervention de spécialistes ou qu'il est légitime de l'exiger. L'impression d'incompétence est donc un piège inhérent à la progression du contingent de personnes présentant de l'expertise. Que mangent alors les politiciens pour proposer, présenter et promettre tant de compétences pour accéder aux portes du pouvoir? Notre système parlementaire accentue ce phénomène en combinant des fonctions législatives et exécutives. Non seulement il établit les principes directeurs, mais aussi il les applique et les gère, et ce, dans un nombre de ministères qui a décuplé depuis la constitution d'un État plus axé sur les programmes sociaux. Assez marquant aussi est le fait que les décisions et l'exercice de direction des officines gouvernementales soient de plus en plus concentrés autour du poste de premier ministre. Le concept d'équipe ministérielle a aujourd'hui moins d'importance que dans les générations précédentes. Par ailleurs, le discours politique démontre qu'il s'opère sans grand égard pour la capacité des ressources et des serviteurs publics à adapter leurs actions aux requêtes, aussi adéquatement motivées soient-elles. La confiance accordée et démontrée par des votes s'apparente à une croyance, à une foi en la parole de nos dirigeants. On croit ou on veut croire que les solutions proposées comblent des besoins personnels. De fait, les projets collectifs, les objectifs communautaires sont occultés trop souvent au profit de programmes instaurés pour répondre à un objectif de clientélisme électoraliste. Je ne pointe pas en cela les politiciens qui se modélisent sur les empreintes de la population. L'attitude attentiste et de demande de celle-ci se perçoit ailleurs que dans le choix des gouvernements. L'engouement pour l'intelligence artificielle, IA, témoigne de cette recherche de la solution facile à trouver. On en connaît pourtant les risques. L'IA hallucine par moments et de façon imprévisible, produisant des réponses pour satisfaire le demandeur, laissant croire à son omnipotence à travers le langage, proposant des solutions sans en être ultimement responsable. Il y a, dans ce lien entre les comportements, manifestement objet à des analyses sociologiques. Les problèmes individuels de la vie courante et de la société sont-ils maintenant perçus comme constamment complexes, comme des montagnes pour lesquelles les individus se sentent mal outillés, incapables de chercher une réponse par eux-mêmes ou via des ressources évidentes, fiables, constantes et proches? Pourtant, une société mature devrait plutôt tendre à développer la capacité de ses membres à assurer leur sécurité, leur prospérité et leur indépendance. John F. Kennedy a inscrit la destinée de toute une génération en disant « Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country ». La société a besoin de l'apport de chacun, de leur créativité. La passivité en se contentant de payer ses impôts ne peut, isolée, permettre de progresser vers un mieux-être plus global. L'IA a certes le potentiel de nous aider à progresser plus rapidement. Mais l'initiative, l'ambition, le désir d'un avenir meilleur pour soi et les autres ne peuvent être, par procuration, strictement délégués par un vote périodique ou formulés dans un chatbot. Notamment, les organismes communautaires et les fondations, qui permettent de développer un discours et une action pour recentrer les besoins humains, sont en quête de plus que des dons, mais aussi de gens engagés, disponibles et qui voient encore dans l'interaction humaine la meilleure façon de créer un vivre ensemble dans lequel chacun se reconnaît. Et c'est bien humblement, sans grand diplôme ou discours de mise en candidature, que la plupart des bénévoles et des travailleurs apportent leur contribution à l'essor social. Il serait bien de reconnaître et d'admettre que cette notion d'humilité, de reconnaissance des limites, n'est pas un frein à justement bien représenter l'humain dans toutes ses vulnérabilités. Celle-ci incarne d'ailleurs les fondements de la société dans laquelle on reconnaît que les failles des uns ne sont pas une limitation à l'essor d'idées, de valeurs et d'émotions qui font de l'expérience humaine un témoignage de solidarité et du désir d'aider par des moyens qui, on en conviendra, ne peuvent pas toujours être parfaits. C'était « Les humbles capacités humaines », un texte de Denis Soulière paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir.
Médecins de famille. Plus de 550 000 nouveaux patients auront accès à un médecin. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 27 mai 2026 dans La Presse. Plus de 555 000 patients supplémentaires, dont près de 221 000 vulnérables, ont désormais accès à un médecin de famille ou un groupe de médecins. Les omnipraticiens ont dépassé, un mois plus tôt, l'objectif fixé dans leur entente avec Québec. Mais il ne s'agit pas d'une réelle prise en charge de patients, dénoncent les partis d'opposition. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce lors d'un point de presse tenu à Québec en compagnie du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, le docteur Marc-André Amiot. Deux médecins étaient à leur côté. Les médecins de famille devaient inscrire 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables, d'ici la fin juin, afin d'obtenir une prime de 2,5%, 76 millions de dollars. Le défi maintenant va être vraiment de continuer à faire progresser cette cible avec d'autres professionnels de la santé, notamment avec les IPS, infirmières praticiennes spécialisées, a ajouté la ministre de la Santé. Le docteur Amiot a qualifié l'objectif de 500 000 d'ambitieux. Le contexte n'est pas nécessairement facile au Québec avec la pénurie d'au moins 2000 médecins de famille, a-t-il dit. On peut dire ce matin, mission accomplie. Parmi les 221 000 nouveaux patients vulnérables inscrits, 23% le sont auprès d'un médecin de famille. La majorité est donc affiliée à un groupe de médecins de famille, GMF. Dans les 220 000 personnes qui sont catégorisées vulnérables, c'est aussi le jugement clinique des médecins, a dit la ministre de la Santé en conférence de presse. Un médecin peut prendre des gens en collectif et décider par la suite qu'il va les prendre en individuel. Les médecins de famille disposent d'un délai d'un an pour offrir un premier rendez-vous de prise en charge à un patient vulnérable. C'est lors de cette consultation qu'ils confirmeront la vulnérabilité du patient, explique le cabinet de Mme Bélanger. La ministre de la Santé assure toutefois que ces Québécois auront accès à un médecin avant ce délai s'ils en ont besoin. La promesse, ce n'est pas « à l'intérieur d'un an, vous allez voir un médecin », c'est « si vous en avez besoin », a-t-elle précisé en point de presse. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Moncef Deradji, estime que l'inscription auprès d'un GMF n'est pas une prise en charge réelle de patients. C'est une opération d'achat de rendez-vous parce que le gouvernement a mis sur la table de l'argent pour une inscription collective. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des envois de lettres pour que les gens puissent venir pour un bobo, une rencontre. Le blitz d'inscription se résume à un remplissage de listes, selon le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault. Est-ce qu'on a davantage de rendez-vous ? C'est à suivre, dit-il. Le député de Québec solidaire, Guillaume Cliché-Rivard, dit mal s'expliquer pourquoi l'argent vient avant et non après l'octroi des rendez-vous aux patients nouvellement inscrits. Outre la prime de 2,5%, les médecins de famille ont reçu un montant forfaitaire supplémentaire de 100 $ pour une inscription collective et de 231,75 $ pour une inscription individuelle effectuée avant le 31 mars. Comment se fait-il que ce n'est pas l'année prochaine, après évaluation de combien de ces 500 000-là ont eu véritablement des rendez-vous dans le système, qu'on n'envoie pas le chèque ? La directrice générale du regroupement provincial des comités d'usagers, Sylvie Tremblay, espère que la FMOQ lancera un mot d'ordre à ses membres pour qu'ils prennent en charge individuellement les patients vulnérables. Elle rappelle que ceux inscrits en GMF doivent passer par le guichet d'accès à la première ligne, GAP ou 811 option 3, pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille. Ce n'est pas de la prise en charge et ce n'est pas un véritable accès, déplore-t-elle. C'était Médecins de famille, plus de 550 000 nouveaux patients auront accès à un médecin. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 27 mai 2026 dans la presse.
Devenir le paradis du vélo en misant sur les technos. Un texte de Christina Michaud paru le 1er juin 2026 dans la presse. J'étais à Copenhague quand je me suis promis d'utiliser davantage mon vélo comme moyen de transport. Le retour à la réalité a été brutal et m'a rapidement rappelé pourquoi je pédale rarement du point A au point B. J'habite en région, sur un tronçon principal à quelques minutes en voiture des villages les plus proches et où le bord de route n'est nullement adapté au vélo. Difficile, donc, d'y tenir ma nouvelle résolution, mais le modèle danois est certainement inspirant. Copenhague a fait une grande place à la technologie et elle l'a fait intelligemment. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces villes intelligentes qui mettent la technologie au service de leurs citoyens pour améliorer leur qualité de vie. Comme Melbourne, la capitale danoise a mis en place un système de vagues vertes qui synchronise les feux de circulation lorsque les cyclistes sont nombreux. Cela leur permet de circuler sans devoir s'arrêter à toutes les intersections et assure la fluidité de la circulation aux heures d'affluence. Cette technologie priorise le cycliste par rapport aux automobilistes, ce qui est tout à fait naturel dans cette ville où l'utilisation du vélo est un pilier de la vie quotidienne. Copenhague se démarque depuis plusieurs années comme un modèle mondial de mobilité urbaine. Je me souviens avoir été grandement impressionné et légèrement envieuse des véritables autoroutes consacrées au vélo, alors que plus de la moitié de la population se rend au travail ou à l'école sur deux roues. Un homme en complet, une femme avec son enfant bien installé dans son siège pour vélo, une personne âgée, tout le monde pédale, matin et soir, été comme hiver. Même la cour du palais de Christiansborg, le parlement danois,
est équipée de supports avec option de verrouillage permettant à tous les cyclistes qui y travaillent d'égarer leur monture. J'aurais bien voulu faire le trajet entre mon appartement et la Chambre des communes à vélo lorsque j'y siégeais, mais il aurait fallu que je l'apporte jusque dans mon bureau pour m'assurer qu'il soit à l'abri du vol. La culture du vélo est bien ancrée à Copenhague, et les avancées technologiques y facilitent grandement la vie des usagers, comme dans de plus en plus de villes du monde. Mais comme dans bien des domaines, l'avènement de la technologie vient avec des risques et limites. Une fois que l'on invite l'intelligence artificielle dans notre quotidien et notre communauté, que ce soit par les différentes plateformes que nous utilisons ou les milliers de caméras et capteurs à tous nos coins de rue, il y a des risques de dérive. Et Copenhague n'y fait pas exception. Bien que les vagues vertes soient un modèle largement apprécié, certains craignent la surveillance permanente et ils ne sont pas prêts à sacrifier le respect de leur vie privée. Car les capteurs et caméras qui rendent la circulation plus fluide enregistrent également les déplacements des personnes. Les applications mobiles qui permettent de mieux planifier la mobilité récoltent aussi des données très précises sur la localisation. Et à qui appartiennent ces données? Souvent, les villes font affaire avec des entreprises privées qui collectent une multitude de renseignements sur les habitudes des citoyens, leur domicile, leur lieu de travail, leurs horaires et leurs trajets. Que font-elles de ces données? Il faut se poser la question. Il n'y a pas de doute, les municipalités doivent s'intéresser à la technologie pour être davantage efficaces, attrayantes et concurrentielles, mais elles doivent surtout le faire dans le but d'optimiser la qualité de vie des habitants. Les projets qui misent tout sur l'innovation en perdant de vue le citoyen sont, à mon avis, voués à l'échec. C'est exactement ce qui est arrivé au projet de quartier intelligent porté par Sidewalk Labs à Toronto. Avec l'incertitude économique, la colère de citoyens, qui se sont inquiétés qu'une entreprise américaine recueille des milliers de données grâce aux capteurs et caméras qui auraient été installés un peu partout, a eu raison du projet. Alors, comment utiliser davantage la technologie sans déshumaniser les villes ni transformer l'espace public en collecte de données permanentes? Il semble qu'impliquer la population dès le début et tout au long du processus soit une bonne façon de commencer. Collecter seulement les données nécessaires en faisant preuve de transparence est aussi une condition du succès. La confiance institutionnelle et l'importance de la protection des données publiques au Danemark font aussi de la capitale européenne du vélo un exemple à suivre. C'était « Devenir le paradis du vélo en misant sur les technos », un texte de Christina Michaud paru le 1er juin 2026 dans La Presse.
Les oiseaux se cachent pour mourir. Un texte de Boukhar Diouf paru le 30 mai 2026 dans La Presse. Je ne vous parle pas du film, mais d'une étude publiée en février 2026 dans la revue Science par François Leroy, Martha Jarzina et Petr Kale, un gigantesque travail qui rapporte une accélération du déclin des oiseaux en Amérique du Nord. Les chercheurs ont analysé 35 années de 1000 parcours d'inventaire ornithologique d'oiseaux nicheurs et leur constat est bien triste. Sur 261 espèces, ce sont 122 espèces, 47%, qui connaissent un déclin marqué. Environ 70% des routes d'observation étudiées montrent des baisses de population. Même des oiseaux très communs, comme le quiscal bronzé, l'étourneau sansonnet, les carouges à épaulettes et certains moineaux déclinent de façon inquiétante. Un excellent dossier publié par Mathieu Robert Sauvé dans le Journal de Montréal aborde l'état de la situation au Québec et au Canada. Les ornithologues s'inquiètent. Parmi les grands facteurs d'érosion de la biodiversité aviaire généralement identifiés par les chercheurs, il y a l'agriculture intensive et la crise climatique. On pointe un doigt accusateur vers les pesticides, les engrais, la monoculture, la destruction des milieux humides, la disparition des haies, mais aussi le déclin du monde des insectes. Les oiseaux sont considérés comme des sentinelles de la biosphère. L'effondrement de leur population est donc symptomatique de dérèglements écosystémiques plus profonds. L'avenir pourrait donc nous réserver des cascades trophiques, des conséquences inattendues de ce déclin sur la vie humaine. L'histoire qui s'est jouée en Inde avec le déclin des vautours est un des meilleurs exemples de cascades trophiques rapportées dans l'histoire récente de la littérature scientifique. Dans ce grand pays, en 1990, on estimait le nombre de vautours à 50 millions. Cette énorme armée de nettoyeurs s'occupait des cadavres des animaux à la grandeur du pays. Malheureusement, cette brigade a connu une décroissance extrême. Ainsi, le vautour à croupion blanc, le vautour indien et le vautour à bec grêle ont perdu respectivement 98 % 95 % et 91 % de leur population. Selon les auteurs de l'étude, Eyal Frank et Anant Sudarshan, ces déclins sont les plus rapides et importants jamais documentés chez des oiseaux sauvages. Un des grands coupables de cette hécatombe est un agent chimique appelé le diclofénac, un analgésique utilisé par les éleveurs pour soigner les animaux. Cet anti-inflammatoire qui persiste dans le bétail après sa mort est avalé par les vautours avec des conséquences néfastes pour leur santé. Les charognards ainsi contaminés souffrent de problèmes rénaux souvent fatals. Malgré la sonnette d'alarme des scientifiques, il a fallu attendre jusqu'en 2006 avant que le gouvernement indien interdise l'usage du diclofénac. Mais le mal était déjà fait et une surprenante cascade trophique a émergé de la raréfaction des vautours. En effet, les scientifiques ont estimé que l'effondrement de leur population est associé à environ 500 000 morts humaines additionnelles en 5 ans. Pourquoi? Sans le travail d'assainissement de la nature qu'effectuent les vautours en éliminant les animaux morts, les microbes pathogènes ont eu le champ libre dans les carcasses en décomposition. Les auteurs ont observé une détérioration concomitante de la qualité de l'eau dans les régions touchées. De plus, là où les vautours se font rares en Inde, la surabondance de nourriture a fait exploser le nombre de chiens errants. Ils rapportent aussi qu'à cause de l'augmentation du nombre de chiens errants, entre 18 000 et 20 000 décès dus à la rage ont été signalés annuellement pendant la période de cette étude, ce qui donne à l'Inde le record mondial des cas de rage. En plus de cette hécatombe causée par le diclofénac, d'autres menaces pèsent sur le monde des vautours indiens. La perte d'habitat, les collisions avec les infrastructures humaines et la crise environnementale sont aussi fatales à leur monde déjà fragilisé par le diclofénac. Parfois, un animal que l'on trouve repoussant ou qu'on dit nuisible peut être la pièce maîtresse de réactions en chaîne qui finissent par nous affecter négativement. Ce que mon père exprimait en ces termes. La vie est une immense toile d'araignée où chaque petit fil a un rôle essentiel dans l'équilibre de la structure. Si les oiseaux se font de plus en plus rares, ils laisseront un grand vide dans nos vies. Au-delà de leur rôle dans la biosphère, ils représentent un paysage sonore irremplaçable. En vérité, s'ils nous font autant de bien, c'est parce que, pendant plus de 99 % d'existence de notre lignée évolutive, leurs mélodies ont bercé nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors que notre monde, ce magnifique et émouvant tableau que la nature a mis plus de 3,5 milliards d'années à peindre, s'effondre au grand jour, on s'émerveille médiatiquement sur la face cachée de la Lune. Il est vrai que Donald Trump nous menace économiquement. Cependant, les turbulences que nous réserve la crise environnementale à moyen et long terme sont bien plus préoccupantes. Est-ce que s'ajuster au chaotique mandat du président américain est une raison valable pour abandonner la crise environnementale au troisième sous-sol des priorités, comme le fait Mark Carney? Ce n'est pas parce qu'on regarde à droite qu'on devrait rester complètement aveugle à gauche. À moins de manquer de vision ou de sincère attachement pour la biosphère, évidemment. C'était « Les oiseaux se cachent pour mourir », un texte de Boucard Diouf, paru le 30 mai 2026 dans la presse.
Le ruban gommé sur les bâtons. Une explication de Nicolas Richard, parue le 24 avril 2026 dans la presse. André Gilbert, une lectrice, a demandé « Quels sont les avantages, s'il y en a, à mettre du ruban gommé sur les palettes des bâtons de hockey? » Réponse de Nicolas Richard. Il y a trois avantages à mettre du ruban gommé, ou du tape en bon français, sur la palette du bâton. D'abord, ça crée de l'adhérence entre le bâton et la rondelle. Comme le ruban est un peu collant et rugueux, ça permet aux joueurs de mieux contrôler la rondelle, surtout pour faire des feintes et décocher des tirs. La rondelle colle mieux sur la palette. Ensuite, ça permet d'amortir les passes avec plus de fluidité. Sans ruban, avec la force générée par certaines rondelles, le bâton pourrait vibrer. Ce qui serait désagréable pour le joueur est difficile pour les mains à la réception d'une passe. Le ruban sert donc d'amortisseur. Finalement, le ruban est utile pour protéger le bâton tout simplement. Comme les bâtons sont de plus en plus chers, les nouveaux modèles de la marque Bauer se détaillent à $459,99. Le ruban permet d'éviter les égratignures ou les fissures dans la palette. On peut donc garder ses bâtons plus longtemps. C'était « Le ruban gommé sur les bâtons », une explication de Nicolas Richard, paru le 24 avril 2026 dans La Presse.